Ombreline, de Manon Fargeton et de Maude Bégon. Chapitre 1. Ce jour-là ressemblait à tous les autres jours. Après sa sieste du matin, Ombreline lustra les brins d'herbe de son jardin, répara la coquille d'un escargot, tricota un nuage d'orage. Après sa sieste de l'après-midi, elle confia au vent des mots qui guérissent, pour qu'il les porte à ceux qui en avaient besoin. Puis, la fée s'installa dans son fauteuil préféré pour sa sieste du crépuscule. L'araignée avec qui elle partageait sa maison n'avait aucune conversation, ce qui lui convenait à merveille. Ombreline appréciait le ronronnement lointain de la rue et le murmure de la brise qui feuillette les arbres comme les pages d'un livre. D'ailleurs, elle aimait aussi les livres, qu'elle dévorait dans les librairies lorsque celles-ci étaient fermées. Elle était pressée de continuer l'histoire dont elle avait entamé la lecture la nuit précédente. Les étoiles s'allumèrent, les fenêtres s'éteignirent. Ombreline s'étira dans son fauteuil douillet, se leva, enfila son manteau d'hiver. Prenant soin de ne pas froisser ses antennes sensibles, elle ajouta un cache-oreille. « À plus tard, » dit-elle à l'araignée emmêlée dans ses fils. Ombreline quitta sa maison de poupée et s'envola du toit de l'immeuble en direction de sa librairie favorite. Ce jour-là ressemblait à tous les autres jours, oui, mais la nuit serait différente, car Ombreline allait rencontrer Célestin. Chapitre 2. Ombreline lisait dans la librairie déserte un gros livre avec de grandes pages et presque pas d'images. Elle longeait les lignes, sautait d'un paragraphe à l'autre avec gourmandise, dessinait les virgules du bout du pied. À la fin d'un chapitre prodigieusement satisfaisant, elle s'allongea, enfouit son nez dans le creux des pages et inspira l'odeur de l'encre et du papier. Alors, elle se sentit tout à fait heureuse. Ombreline releva la tête. À travers la vitrine, au premier étage d'une maison, elle aperçut le visage d'un enfant. Intriguée, elle quitta la librairie par la fente de la boîte aux lettres. C'était une petite fille aux pieds nus. Assise sur son lit, elle avait écarté le rideau et ses yeux fouillaient les recoins obscurs de la rue comme si elle craignait que des voleurs s'introduisent chez elle. Ombreline se posa sur le rebord de la fenêtre. Le regard de la fillette passa au travers d'elle sans la voir. Ombreline évitait les enfants du jour, ceux qui criaient dans les cours de récréation, ceux qui couraient sur les feuilles qui craquent. Mais elle aimait les enfants de la nuit, ceux qui lisaient en cachette sous leurs couettes, ceux qui se rêvaient des vies parfaites, ceux qui inventaient pour eux-mêmes mille conversations secrètes. Et elle éprouvait une tendresse profonde pour ceux qui restaient les yeux grands ouverts dans leur lit sans trouver le sommeil. Du bout des doigts et des antennes, Ombreline tira sur les peurs et les excitations de la fillette. Elle les démêla jusqu'à ce qu'elles ondulent comme de longs cheveux dans la mer. Apaisées, les pensées de la petite se roulèrent en boule, telles de gros chats ronronnants. Elle s'endormit bientôt. Ombreline allait retourner à sa lecture lorsqu'elle aperçut une lueur derrière une autre fenêtre. Chapitre 3. Le garçon était dans son lit. À l'aide de ses mains, il découpait des animaux étranges dans le faisceau d'une lampe de poche projetée au plafond. Ombreline sourit. Un petit créatif qui ne parvenait pas à arrêter d'inventer des histoires. En bas d'un dessin de maison affiché au mur, Ombreline lut un prénom, Célestin. Les antennes d'Ombreline captèrent l'humeur du garçon et son sourire s'effaça. Elle sentit un cri monter de son ventre, le ravala avant qu'il explose. Ombreline se concentra sur l'enfant. Il était terrifié et une épaisse brume de chagrin flottait autour de lui. Ombreline la dissipa. La brume réapparut aussitôt. « Ça va aller, » murmura-t-elle au garçon qui ne l'entendait pas. Ombreline s'entêta. Durant 2 heures, elle malaxa ses idées noires, dénoua ses angoisses, caressa sa tristesse. Les émotions de Célestin infusaient en elle comme un thé amer, et elle devait souvent s'ébrouer pour ne pas se laisser envahir. Ses antennes démêlèrent et démêlèrent encore, jusqu'à palpiter si fort qu'Ombreline dut s'arrêter. Rien n'y faisait. Célestin ne s'abandonnait pas au sommeil. Mais Ombreline était loin d'avoir dit son dernier mot. Chapitre 4. Le lendemain, un gros sac vide à la main, Ombreline quitta sa maison de poupée plutôt que d'ordinaire. Les humains se répandaient encore dans les rues, tout en bobelinés de bonnets et d'écharpes. Ombreline traversa la nuit bleue. Les émotions de Célestin grésillaient toujours dans ses antennes. En bordure d'un parc, elle se posa sur un lampadaire et appela à mi-voix. « Concertine, tu es là ?» Aucune réponse. Ombreline descendit jusqu'à l'abri à mésanges où habitait son amie. À l'intérieur, elle trouva deux oiseaux, mais pas de fée. De l'autre côté de la rue, la façade d'un restaurant scintillait. Une musique enlevée en sortait, accompagnée de voix bruyantes. Ombreline prit une grande inspiration, plongea à l'intérieur en se protégeant les antennes, se réfugia contre le plafond. Elle aperçut Concertine, qui accompagnait les musiciens sans qu'ils le sachent. « J'ai besoin de toi !» lui souffla-t-elle avant de s'enfuir. Dans le calme du dehors, Ombreline respira mieux. Concertine s'arrêta près d'elle. « Un problème ?» Un enfant qui ne dort pas. Concertine leva les yeux vers le croissant de lune, plus fin qu'une aile de fée. « Pas de nuages, pas de vent, dit-elle. C'est une soirée parfaite pour la pêche. » Chapitre 5. Ombreline et Concertine mirent à l'eau leur radeau de feuilles mortes. La surface de la rivière était un miroir aussi parfait que les ongles vernis des dames. Ombreline déroula le fil de sa longue canne à pêche. Au bout, à la place de l'hameçon, se trouvait une houppette de plumes de poussin. Concertine, elle, s'arma d'une longue épuisette. « Prête ?» chuchota Ombreline. « Prête ?» confirma Concertine. Ombreline plaça sa canne à pêche au-dessus du reflet d'une étoile et elle chatouilla celui-ci avec les plumes duveteuses. Le reflet gigota une fois, deux fois, puis il se tordit de rire et sauta pour échapper à la houppette. Alors, hop, Concertine l'attrapa dans l'épuisette. Elle ramena le reflet d'étoile frétillant sur le radeau et le glissa dans le sac d'Ombreline où il s'apaisa vite. « Edin !» s'exclama Concertine. Lorsqu'Ombreline la quitta, son sac était plein et les rues désertes. Chapitre 6. Ombreline se glissa dans la chambre de Célestin. Comme la nuit précédente, il jouait avec sa lampe de poche. Soudain, un bruit dans le couloir l'effraya et il éteignit la lumière. Immobile sous sa couette, Célestin retenait sa respiration. « Ça va aller !» le rassura Ombreline. Elle posa son gros sac sur le tapis et l'ouvrit. Il n'existait rien de mieux que des reflets d'étoiles pour apaiser les enfants et les aider à trouver le sommeil. Cette nuit, Célestin dormirait bel et bien. Les reflets d'étoiles étaient timides, ils n'osaient pas sortir. Ombreline renversa le sac et les encouragea. « Allez, allez » souffla-t-elle, « Célestin vous attend !» Alors, les reflets émergèrent du sac. Ils se collèrent au sol, au plafond, sous le lit, sur la couette et les jouets, jusqu'au fond des placards. Bientôt, des dizaines de reflets d'étoiles scintillaient dans la chambre. Célestin se redressa pour les admirer. Un reflet glissa jusqu'à sa poitrine et palpita contre son pyjama. Célestin sourit, le caressa. Pour la première fois, il sembla apaisé. Et Ombreline attendit qu'il s'endorme. Mais Célestin ne s'endormit pas. « Par les ailes des anciennes ?» pesta Ombreline à mi-voix. « C'est impossible !» Chapitre 7. En rentrant chez elle, Ombreline oublia d'effectuer son travail de fée. Elle ne déposa pas de rosée sur les feuillages, ne créa aucun manteau de givre aux brins d'herbe, ne fit pas bourgeonner les mimosas. Et lorsqu'elle s'assit dans son fauteuil préféré, même l'araignée au plafond comprit que quelque chose ne tournait pas rond. Ombreline ne pensait qu'à Célestin. Par deux fois, elle lui avait assuré que ça irait. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle en savait de si ça irait ou pas? Elle ne connaissait rien de sa vie. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il se faisait embêter à l'école? Est-ce que ses parents se séparaient? Pour trouver le bon remède, elle devait comprendre l'origine du problème. Alors, ce soir-là, Ombreline fit une sieste de nuit. Et juste avant l'aube, elle ressortit. Chapitre 8. Ombreline suivit Célestin toute la journée. Elle était là quand sa mère entra dans sa chambre pour lui dire de se lever. Là, lorsque son père ébouriffa ses cheveux au petit déjeuner. Là, sur le chemin de l'école, que le garçon fit durer le plus longtemps possible en saluant chaque arbre qu'il croisait. Dans la cour de l'école, Célestin ne parla à personne. Il s'assit dans un coin pour attendre la sonnerie. Ombreline se posa sur son épaule, heureuse qu'il reste à l'écart des jeux bruyants. Les enfants montèrent en classe. Célestin s'assit à un îlot avec trois élèves qui ne lui accordèrent aucune attention. Après une leçon de mathématiques, le maître à moustache distribua une carte du monde qu'ils collèrent dans leur cahier de géographie. Et tandis qu'il évoquait les mers et les océans, Célestin s'endormit. Ombreline soupira, soulagée. Il dormait donc, juste pas pendant la nuit. Elle s'allongea au milieu de l'océan Atlantique, la tête posée sur l'Islande, et décida qu'il était en effet l'heure de sa sieste du matin. Chapitre 9. Une grosse voix tira Ombreline de son sommeil. « Eh bien, Célestin, on s'est encore couché trop tard ?» Le maître secouait l'épaule de Célestin d'un air sévère. Ombreline bondit sur ses pieds. « Laissez-le dormir, enfin, il en a besoin !» Bien sûr, le maître ne l'entendit pas. « Je vais finir par t'installer un lit au fond de la classe, » poursuivait-il. « Très bonne idée, ça !» Mais en voyant les autres élèves éclater de rire, Ombreline comprit que le maître plaisantait. Des chuchotements s'élevèrent. « Il est vraiment trop bizarre, » se moquait une petite fille. Célestin fixait son cahier sans réagir, et même lorsque le maître le punit, il ne releva pas les yeux. Les ailes d'Ombreline se froissèrent de fureur. Dormir était important, bien plus important que la géographie. Cette punition était injuste. Ce maître était injuste. Ses élèves étaient injustes. Et rien ne mettait plus en colère les fées que les injustices. Ombreline fonça sur les moustaches du maître, tira dessus un grand coup. Il glapit de douleur. Quand ses doigts fouillèrent ses poils, Ombreline était déjà en train d'écrire sur son grand cahier « Vous me copierez 100 fois. Les enfants ont besoin de dormir, monsieur l'abominable maître à moustache. » De retour à son bureau, le maître découvrit le message et pâlit. Il referma d'un coup son cahier. Chapitre 10. À la fin de la journée, Ombreline n'avait pas découvert ce qui dérobait le sommeil de Célestin. Ce n'étaient pas juste les chuchotements des élèves ou les remarques du maître à moustache. Il y avait forcément une autre raison moins raisonnable. En revanche, elle avait remarqué dans la cour de récréation plusieurs enfants isolés. La nuit venue, elle leur rendit visite. Certains faisaient des cauchemars, d'eux comme Célestin, ne dormait pas du tout. Par les ailes des anciennes, murmura-t-elle, inquiète, c'est une épidémie. Elle avait besoin de conseils, et comme il s'agissait d'une urgence, elle fit ce qu'elle détestait le plus au monde. Elle cria. un cri plus rugissant que 1000 moteurs de camions, plus puissant que le vacarme d'une cascade, plus insupportable que les pleurs de 10 bébés. Un cri si aigu que seuls l'entendaient les fées et les chiens qui se mirent à hurler dans la ville. Chapitre 11. Patamor et Concertine arrivèrent les premières, suivies de près par Miolette et Poésage. « Un problème ?» bâilla la grande soufflie en se posant derrière elle. Zorache se montra la dernière, crête ébouriffée, visage chiffonné. Boudeuse d'avoir été réveillée si tôt par le cri d'Ombreline, elle croisa les bras et attendit. « Plusieurs enfants ne dorment pas de la nuit, » expliqua Ombreline. « Tu as essayé de malaxer leurs idées noires ?» demanda Soufli. « De dénouer leurs angoisses ?» poursuivit Miolette. « De caresser leur tristesse ?» proposa Poésage. Ombreline secoua la tête de haut en bas. « Même les reflets d'étoiles n'ont pas fonctionné, » s'étonna Concertine. Ombreline secoua la tête de droite à gauche. D'une voix minuscule, elle évoqua la détresse qu'elle sentait en eux. Patamor posa une main sur son épaule. Quel genre de détresse? C'est comme s'il n'avait plus une seule goutte d'espoir. Il y a toujours eu de tels enfants, observa Patamor. Ombreline fronça les sourcils. Alors il n'y a rien à faire? Bien sûr que si, s'exclama Zorage. Tu dois te rendre à la bibliothèque. Je t'accompagne, proposa Patamor. Pour se rendre à la bibliothèque des fées, il fallait quitter la ville et survoler les champs jusqu'à la forêt où vivaient la plupart de leurs sœurs. Ombreline et Patamor s'élancèrent dans les rayons veloutés du soleil. Chapitre 12. Entre les arbres, Ombreline aperçut la grotte qu'elle cherchait. Pilephas en gardait l'entrée. Voyant les fées atterrir, ils se redressèrent dans leurs armures en pierre de tempête. « Qui demande à entrer dans la bibliothèque des fées ?» demanda Pile. « Ombreline et Patamor. »« Je ne t'entends pas, petite, » dit Face. « Je ne suis pas petite, je suis Ombreline. »« Parle plus fort, petite, » protesta Pile. Elle hurla. « Je ne suis pas petite, je suis Ombreline. » Pile et Face reculèrent de 3 pas, secouèrent la tête, se débouchèrent les oreilles du bout du petit doigt. « Une fée crieuse !» constata Face, sans l'ombre d'une ombre. « Je t'entends mal, » grogna Pile. « Ce ne serait pas une fée crieuse ?»« Je pense que c'est plutôt une fée crieuse. Qu'est-ce que tu dis ?» Ombreline s'engouffra entre eux et pénétra dans la bibliothèque. Chapitre 13. La bibliothèque des fées avait peu à voir avec celle des humains. Elle ne renfermait ni livres, ni rayonnages, ni bibliothécaires à lunettes qui sentent bon l'encre et le papier. Seulement des pensées suspendues au plafond, les pensées de toutes les fées qui ont été et qui ne sont plus. « Je prends ce côté, » dit Patamor, « et toi celui-là. » Ombreline secoua une pensée qui se déversa dans son oreille avec un son de grelot. C'était une jolie pensée sur la fraîcheur des pluies d'été. Malheureusement, elle ne lui permettait pas d'aider Célestin. Ombreline consulta de nouvelles pensées et d'autres encore. Elle apprit comment consoler un saule pleureur. Elle écouta le tapotement des pas de fourmis sur une carapace de tortue. Elle recueillit les dernières paroles d'une sorcière heureuse. Mais concernant les enfants qui ne dormaient pas, rien. Les pensées consultées illuminaient la grotte. « J'ai peut-être quelque chose, » lança Patamor. Elle pointait une pensée d'un vert aussi profond que la plus profonde des forêts. Ombreline l'agita. La voix d'une fée inconnue carillonna dans son oreille. « Certains enfants ne sont pas aimés comme ils le devraient. » Bizarrement, sitôt que le murmure se tut, Ombreline oublia cette pensée comme si elle ne voulait pas savoir cela. Elle dut la secouer 3 fois avant de l'entendre vraiment et de la retenir. Elle pensa à Célestin au sourire de sa mère, au geste tendre de son père. Célestin était aimé. C'était un peu compliqué à l'école, mais à la maison ça allait, non? Ombreline voulait en avoir le cœur net. Elle prit une grande inspiration et marcha jusqu'au fond du fond de la bibliothèque des fées. Chapitre 14. Ombreline s'accroupit au bord du bassin d'eau noire. À l'intérieur vivait l'esprit qui sait tout. Beaucoup de rumeurs couraient à son propos, mais personne ne savait vraiment qui il était. Qui elle était? Même ça, on l'ignorait. Mais si l'esprit savait tout, il pourrait aider Célestin. Les mains d'Ombreline tremblaient. Elle n'avait jamais eu besoin de consulter l'esprit qui sait tout. Elle se pencha, admira les reflets des pensées à la surface du bassin, en chatouilla un du bout des doigts. Le reflet se dandina et, n'y tenant plus, il sauta pour lui échapper. Ombreline fut plus rapide. Elle le cueillit au creux de sa main et le posa sur sa poitrine. Aussitôt, elle se sentit mieux. Elle s'éclaircit la voix, mais, comme souvent, le son qui franchit ses lèvres n'était qu'un chuchotis de souris. « Bonjour !» Chapitre 15. D'abord, rien ne se passa. Puis, une lueur apparut dans les profondeurs du bassin et une voix ample s'éleva dans la grotte. « Nous savons pourquoi tu es là, Ombreline. » « Oh, parfait !» Moins elle avait besoin de parler, mieux elle se portait. Certains enfants ne dorment pas parce que s'endormir est dangereux. Dormir dangereux? Du sommeil, Ombreline aimait tout. La torpeur qui la saisissait lorsqu'elle s'installait dans son fauteuil, la sensation de devenir lourde, de s'enfoncer dans le velours. Les pensées qui dérivaient jusqu'à la frontière des rêves. Elle se sentait si bien lorsqu'elle dormait qu'elle peinait à y associer du danger. Elle demanda « Qu'ont-ils à craindre ?»« Leur monstre aimé, » répondit l'esprit qui sait tout. Et hop, la lumière au fond du bassin s'éteignit. « Attendez, s'affola Ombreline, j'ai encore des questions, revenez !» L'esprit qui sait tout ne revint pas. Ombreline épousseta ses cheveux pour chasser les questions qui y restaient collées. Elle se concentra sur les réponses qu'elle avait obtenues. Leur monstre aimé. La gorge d'Ombreline se serra. Chapitre 16. Lorsque Patamore et Ombreline ressortirent de la bibliothèque, une dizaine de fées de la forêt les attendaient. « On t'a entendu crier, » expliqua Lumilane. Ombreline s'excusa. « Pardon, je ne voulais déranger personne. »« Tu ne me déranges pas. » Je gonflais les champignons en bas. Solistère s'avança. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Ombreline expliqua la détresse des enfants de la nuit. « Oh !» s'exclama Lumilane. « J'en ai une aussi, une petite fille qui ne dort pas. Ici, dans la forêt ? Juste à côté. Montre-nous. » « Elle n'est pas à l'école ?» s'étonna Ombreline. Lumilane secoua la tête. Parfois, elle n'y va pas. Elle est souvent malade. L'enfant était assise sous une chaise dans la cuisine. Minuscule, elle n'avait même pas besoin de pencher la tête. Des cernes bleues agrandissaient son regard. « Elle n'a pas peur de la mort, » observa Patamore. Lumilane protesta. « Tous les humains ont peur de la mort. »« Certains ont davantage peur de la vie, » murmura Ombreline. « Et en général, » ils ont de bonnes raisons pour ça. Quand Ombreline rentra en ville, c'était l'heure de sa sieste du crépuscule. Elle s'installa dans son fauteuil préféré, remonta sa couverture jusqu'au menton, se lissa les antennes. Mais pour la première fois depuis à peu près toujours, les paupières d'Ombreline restèrent grandes ouvertes. Les réponses de l'esprit qui sait tout flottaient autour d'elle obsédantes. Certains enfants ne dorment pas parce que s'endormir est dangereux. ils craignent leur monstre aimé. Comment pouvait-on aimer un monstre? Ombreline, privée de sommeil, quitta son fauteuil et vola jusque chez le Célestin. Chapitre 17. La maman de Célestin le bordait dans son lit. Elle déposa un baiser sur son front. « Bonne nuit, ma loutre. Bonne nuit, maman. » Un peu plus tard, elle se coucha à son tour. Célestin écoutait les bruits de la maison. Perché au bout de son lit, Ombreline écoutait avec lui. Des pas retentirent dans le couloir. Sous sa couette, Célestin retint sa respiration. Ombreline la retint avec lui. Une ombre s'arrêta derrière la porte. La poignée s'abaissa. Ombreline s'affola. C'était le monstre de la maison, juste là. Il ne fallait pas qu'il entre. Que pouvait-elle bien faire? Elle n'était qu'une minuscule fée crieuse. Une fée crieuse? Bien sûr. Chapitre 18. Alors que la porte de la chambre s'ouvrait, Ombreline cria. Un cri plus éclatant qu'un roulement d'orage, plus impérieux que le plus grand désespoir, plus féroce que les rugissements des lionnes. Elle cria et tous les chiens du quartier hurlèrent dans la nuit. La haute silhouette du monstre s'immobilisa contre la lumière du couloir. Dehors, les chiens aboyaient encore. Des fenêtres s'allumèrent sur les façades des maisons et des immeubles. Des voix retentirent dans la nuit. Le monstre hésita, puis tourna les talons. Il referma la porte de la chambre. Dans un même souffle, Célestin et Ombreline soupirèrent de soulagement. Chapitre 19. Ombreline se retourna. Derrière la fenêtre, les autres fées de la ville lui faisaient signe. Elle leur indiqua la trappe d'aération et toutes rejoignirent Ombreline dans la chambre de Célestin. Zorage, encore ensommeillé, était resté en pyjama. « Désolée, murmura Ombreline, je ne voulais pas vous réveiller. »« Tu as crié ?» s'inquiéta Patamore. « Oui. Tu l'as vu ?» La grande soufflie posa les mains sur ses hanches. « Vu qui ? » demanda-t-elle. « Le monstre, » fit Patamore. « Quel monstre ?» s'étonna Miolette. Ombreline et Patamore leur rapportèrent les informations qu'elles avaient récoltées dans la bibliothèque des fées. Leurs regards glissèrent vers la porte fermée. « Allons-y ensemble, » décida Zorage. Et les fées se glissèrent par le trou de la serrure de la chambre. Chapitre 20. En formation serrée, elles parcoururent le couloir, visitèrent le salon, entrèrent dans la cuisine. Le père de Célestin était attablé, un verre à la main. Il regardait une vidéo sur son téléphone. « C'est lui ?» demanda Concertine. Ombreline se rappela enfin ce qu'elle n'avait pas su voir du premier coup. La tension dans le corps de Célestin lorsque son père lui ébouriffait les cheveux. L'air qui soudain s'embrumait de peur et s'illuminait d'amour autour du petit garçon. Son regard qui fuyait vers le sol dès que cet homme entrait dans la même pièce que lui. Certains enfants ne sont pas aimés comme ils le devraient. Ombreline se dit que le père de Célestin ressemblait à n'importe quel autre humain. Un homme tout à fait normal. Et pourtant, c'était bien lui le monstre aimé. Lui qui volait le sommeil de son fils. Ombreline se posa sur la table de la cuisine. Elle savait qu'aucune famille n'était parfaite, mais elle aurait voulu que toutes soient suffisantes. Or, certains parents ne savaient pas aimer leurs enfants sans faire de mal. Certains détournaient les yeux quand d'autres leur faisaient du mal. Certains, parfois, ne se rendaient même pas compte qu'un monstre vivait dans leur maison. Et ça n'empêchait pas leurs enfants de les aimer. Ombreline se concentra sur le père de Célestin. D'étranges brins de secret émanaient de lui, piquant comme des ronces. Du bout de ses antennes, Ombreline les explora. Certains brins de secret s'enfonçaient dans la chambre de Célestin, mais d'autres conduisaient jusqu'à une porte fermée tout au bout du couloir. Les fées se faufilèrent dessous. Chapitre 21. Ombreline tressaillit en découvrant la mère de Célestin. Celle-ci dormait, pelotonnée en bordure du grand lit. Mais cette femme si paisible était tout emmêlée de silence. Des milliers de lianes invisibles formaient un bandeau devant ses yeux, des bouchons dans ses oreilles, un bâillon sur la bouche. « Elle ne peut pas voir, » expliqua Ombreline. « Elle ne peut pas entendre, elle ne peut pas parler. »« Elle est aveugle, sourde et muette ?» s'inquiéta Zorage. « Non, c'est le monstre aimé qui l'empêche de comprendre. » Ces derniers jours, Ombreline avait si bien observé Célestin qu'elle ne s'était pas intéressée de près à ses parents. Elle se posa sur l'oreiller, glissa avec précaution ses antennes entre les lianes de silence qui enserraient la mère de Célestin. Seulement, Ombreline eut beau tirer, pousser, agripper de toutes ses forces, les lianes griffues ne bougèrent pas d'un pouce. Leur emprise était trop forte. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Poésage. Les fées vrombissaient de colère. Elles pouvaient rendre difficile la vie des monstres de maison. Les condamner à toujours marcher sous la pluie, leur coller des boutons de moustiques entre les orteils, leur faire pousser de petits cailloux douloureux dans le ventre. Mais cesseraient-ils pour autant d'être des monstres? C'était peu probable. Ombreline posa les mains sur les épaules de Concertine et chuchota. « J'ai une idée. » Chapitre 22. Là. Ombreline pointait une place triangulaire en contrebas. Concertine se posa au milieu, porta sa flûte à ses lèvres. La mélodie des monstres aimés monta sous les étoiles vacillantes. Dans les chambres, des oreilles se tendirent, des souffles se suspendirent. Ombreline frissonna. La mélodie esquissait des dizaines de monstres aimés. Ils ne se ressemblaient pas, et leur monstruosité, invisible à l'œil nu, était toute différente. Il y avait tellement de manières de mal aimer. Puis la musique de Concertine se transforma. C'était la chanson des enfants blessés, ceux qui vivent ce qu'aucun enfant ne devrait vivre. Alors les enfants de la nuit s'échappèrent des maisons et des immeubles. En silence, ils se glissèrent par les fenêtres, s'agrippèrent aux branches des arbres, descendirent les tuyaux des gouttières et les poteaux des lampadaires. Les fées les emmitouflèrent dans des courants d'air chaud, si bien que ni leurs pyjamas trop fins, ni leurs pieds nus ne les dérangèrent. Autour d'eux, l'hiver s'était écarté. Les uns après les autres, ils arrivèrent sur la place. Ils se regardèrent en silence. Célestin s'arrêta devant une fillette aux longs bras. « Tu es comme moi. »« Toi aussi, » répondit-elle, « tu es comme moi. » Chapitre 23. Les enfants de la nuit restèrent un moment ensemble sur la place. Ils parlèrent peu et dirent beaucoup. D'un regard, ils se reconnaissaient. D'un geste, il se comprenait. Perchés sur les branches d'un arbre, les fées de la ville les enrobaient de douceur. Ombreline, elle, voletait entre eux, se posait sur leurs oreilles. « Ce n'est pas ta faute, » affirmait-elle. « Ton monstre aimé est responsable, pas toi. » Elle répétait ces phrases à chacun, leur creusait un chemin à travers les lourdes pensées enchevêtrées comme les racines des vieux arbres. Et le pas des enfants de la nuit s'allégeait. Par petits groupes, ils se mirent à jouer. Ombreline rejoignit ses sœurs. Ses enfants n'étaient plus seuls. Ils pouvaient porter ensemble leurs secrets. Mais... « Leurs monstres vont continuer à monstriser, » murmura-t-elle. « Je pourrais les aider à oublier, » proposa Poésage. Ombreline se mordilla à l'intérieur de la bouche. « Je ne suis pas sûre que ça les aiderait. Je suis même sûre du contraire, renchérit Zorage. Le cœur serré, Ombreline se leva. Peut-être que si certains de ses enfants parlaient à leurs proches, ils seraient entendus et protégés de leurs monstres. Mais que faire pour tous ceux dont les familles étaient engluées dans les lianes de secrets, comme la mère de Célestin? « Vérifiez que chacun retrouve son lit, » chuchota-t-elle. « Je dois réfléchir plus fort. » Chapitre 24. Au-dessus de la rivière, Ombreline zigzaguait entre les reflets d'étoiles. « Ça ne peut pas se terminer ainsi, » gronda-t-elle. « Je ne les abandonnerai pas avec leurs monstres. » À la surface de l'eau, les reflets d'étoiles se déplacèrent. Ombreline n'avait jamais assisté à un tel phénomène. Elle s'arrêta net et, lorsque les étoiles dessinèrent une flèche, elle écarquilla les yeux. « Par là? Vous voulez que j'aille par là? » Peut-être les étoiles savaient-elles quelque chose qu'Ombreline ignorait. Après tout, depuis le fond du ciel, elles observaient la ville chaque nuit. Ombreline suivit la flèche. De rue en rue, les reflets formèrent d'autres flèches sur les vitrines, le dessus des poubelles et les flaques d'eau. Ombreline se laissa guider jusqu'à une fenêtre. Elle se posa sur le rebord, colla son nez à la vitre, et elle reconnut le maître à moustache de Célestin. Ombreline grimaça. Pourquoi les étoiles l'avaient-elles guidée vers cet horrible bonhomme? Le maître se retourna dans son lit, se frotta les paupières. Ombreline entra dans la chambre et, intriguée, palpa son humeur. Des angoisses s'enroulaient autour de sa poitrine. Ombreline hésita, puis elle fit ce qu'elle savait faire, et passant ses antennes entre les angoisses du maître à moustache, elle les dénoua. Il respira mieux. Pourtant, il ne s'endormit pas. Elle se posa sur le ventre du maître. Celui-ci fixait le plafond. Ombreline ne perçut pas en lui la détresse des enfants de la nuit, mais une inquiétude franche, semblable à celle qui l'animait. Alors, elle comprit pourquoi les reflets l'avaient menée ici. « Je ne peux pas aider Célestin, » murmura-t-elle à l'oreille du maître. « Mais vous, peut-être que vous pouvez. » Chapitre 25. Ombreline resta avec le maître, et au matin, elle se posta sur son épaule pour aller à l'école. Il marchait d'un pas rapide, plus léger que la veille. Ombreline l'ayant débarrassé pour quelque temps de ses angoisses, il considérait la rue et les passants avec un œil différent. Il remarquait des détails nouveaux, le manteau coloré d'une femme, un nid abandonné dans les branches d'un arbre, les cernes d'un enfant. Il se posait des questions nouvelles. Est-ce que j'aimerais porter plus de couleurs? L'oiseau reviendra-t-il au printemps? Que se passe-t-il dans la vie de cet enfant? Dans la cour de l'école, Ombreline aperçut Célestin. Le maître à moustache regardait dans la même direction qu'elle. Et plus tard, lorsque Célestin s'endormit sur sa table, le maître fit les gros yeux aux élèves qui ricanaient. « Laissez-le dormir, » gronda-t-il. Les élèves échangèrent des mots perplexes, mais cessèrent de se moquer. Quand l'heure de la récréation du matin arriva, Célestin dormait encore. Le maître fit sortir ses élèves sur la pointe des pieds. L'un d'eux lâcha son goûter, réveillant Célestin. Le maître fit signe à ce dernier de rester à sa place. Il s'assit à côté de lui sur une chaise trop petite. « Tu ne dors pas beaucoup chez toi, hein? Comment ça se passe quand tu rentres de l'école ?»« Normal, » lâcha Célestin. « C'est comment, normal ?» Chapitre 26. Le maître à moustache parla à Célestin. Celui-ci répondit peu. Il écoutait. Il se méfiait des adultes. « Je ne peux pas dire, » lâcha-t-il finalement. « Tu préférerais dessiner ?» proposa le maître à moustache. Célestin accepta. Sur la feuille blanche, il traça le triangle de la place et la peupla de silhouettes, des petites et des grandes. Ombreline reconnaissait la scène, mais pas le maître. Alors il demanda « Qui est-ce ? Les enfants de la nuit, dit Célestin. Tu es sur le dessin ? Célestin pointa un garçon au milieu de la place. Très ressemblant, approuva le maître. Et qui sont ceux qui flottent dans le ciel ? Nos monstres aimés, les voleurs de sommeil. Le maître à moustache retourna ces mots dans sa tête. Pourquoi ils flottent ? Demanda-t-il encore. Là, les monstres sont enfermés dans la musique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Célestin secoua la tête. Pas toujours, confirma-t-il dans un souffle. Et puis, avec ces mots d'enfant, qui sont des mots importants, il évoqua l'ombre derrière la porte de sa chambre et la poignée qui tourne lorsqu'aucune fée n'est là pour faire hurler les chiens. Le maître l'écouta sans l'interrompre. Et à mesure que Célestin parlait, les moustaches du maître tremblèrent et ses sourcils se rejoignirent au milieu du front comme une deuxième paire de moustaches. Ce n'était pas de la colère, ou du moins pas de la colère contre Célestin. En le voyant si chamboulé, Ombreline sentit l'espoir grandir au creux de sa poitrine. « C'est grave ce que tu me racontes, » dit le maître à moustache. « On n'a pas le droit de te faire ça. C'est interdit. Je dois en parler à des personnes qui te protégeront. » Chapitre 27. Ombreline visita Célestin dans sa nouvelle maison. Le trouvant endormi, elle sourit. Il faisait encore des cauchemars, mais il ne les vivait plus. Célestin n'habitait plus avec son père. Les lianes de secret qui entravaient sa mère s'étaient enfin desserrées. Elle et Célestin passaient des heures à parler de ce qui leur faisait mal, de ce qui les faisait rire, de ce qu'ils trouvaient beau et de ce qu'ils trouvaient triste. Et lorsqu'ils se taisaient, le silence n'avait plus de griffes. Ombreline dit au revoir à Célestin. Il n'avait plus besoin d'elle. Contrairement aux autres enfants de la nuit, que les fées de la ville aidaient de leur mieux. Ombreline vola jusque chez le maître à moustache. Lui aussi dormait sur ses deux oreilles, l'une après l'autre, évidemment. Sa fenêtre n'était pas très propre. Du bout du doigt, Ombreline traça un message dans la poussière. « Vous n'êtes pas si abominable, monsieur le maître à moustache. Je crois même que je vous aime bien. » Et elle signa d'un petit haut, si petit qu'il ressemblait à un point. Ombreline se gratta la gorge. Elle, qui détestait élever la voix, n'avait pas autant crié depuis à peu près toujours. Et face au monstre de Célestin, son cri avait été utile. C'était un cri d'alerte, un cri de ralliement, un cri qui aide, un cri puissant et important. Elle ne voulait plus avoir peur de cette voix dont elle avait hérité. Ombreline se dit même que peut-être elle pourrait s'en servir plus souvent. Se fier à sa voix, comme Célestin apprenait à le faire en discutant avec sa mère. Car Ombreline était les deux, la fée discrète et la fée crieuse. Elle avait le droit d'être les deux. Alors, devant le petit point, elle dessina un haut, grand comme une bouche ouverte. Dans le ciel scintillant, l'aube approchait. Ombreline bâilla. Il était temps de rentrer. Chapitre 28. Sur le chemin du retour, Ombreline fit craquer le béton des trottoirs pour que des fleurs y poussent. Oh, pas des roses ni des lys, bien sûr. Des fleurs sans prétention. Celles que les humains arrachent des jardins, alors qu'elles sont si jolies. Ce n'était pas du tout la saison, mais Ombreline s'en fichait bien. Dans sa maison de poupée, Ombreline salua son araignée, puis gagna son fauteuil. Et tandis que, dans la ville, Célestin et le maître à moustache se préparaient pour l'école, Ombreline se prépara pour sa sieste du matin. Elle songea à la petite fille qui ne dormait pas et n'allait plus à l'école, coincée dans sa maison en bordure de forêt. Quelques jours plus tôt, Ombreline avait rendu visite à Lumilane et Solistère pour leur expliquer comment l'aider. Et elle en avait profité pour suspendre une nouvelle pensée dans la bibliothèque des fées. Une pensée qui parlait de la sagesse des étoiles, d'adultes qui blessent et d'adultes qui protègent, d'un hiver qui s'écarte et de poils de moustache. Une pensée douce amère, à travers laquelle murmurait la mélodie des enfants de la nuit. Une pensée d'espoir. Ombreline remonta sa couverture jusqu'à son menton. Elle se dit que, la nuit prochaine, elle retournerait enfin à la librairie terminer le roman qu'elle avait entamé avant de rencontrer Célestin. Et cette idée était si confortable qu'Ombreline s'endormit aussitôt.